OK, on va aller rejoindre notre prochain invité qui est chef de bureau à l'Assemblée nationale, animateur à RDI des mordus de politique. Alors, on va le rejoindre tout de suite, Sébastien Bovet. Bonjour, Sébastien.
Salut, Stéphane.
Comment allez-vous?
Il me semble qu'on... Je vais très bien, merci, mais on avait établi quelque chose la dernière
oui,
fois.
Oui.
Il me semble qu'on est supposé se tutoyer.
C'est vrai. On revient à ça. Comment est l'atmosphère au travail, là, après... Là, on est rendu à près d'un an de pandémie où c'est beaucoup l'unique sujet politique
ouais.
qui est débattu devant vous, devant toutes vous autres. Comment ça se passe?
Ben, en effet, on est comme mono-sujet depuis un an, donc on parle presque exclusivement de la COVID, mais en même temps, c'est tellement gros qu'on n'a pas vraiment le choix de parler juste de la COVID. Puis c'est comme si, tu sais, quand on est journaliste, on aime la diversité, c'est-à-dire qu'on aime que les nouvelles se renouvellent un peu puis qu'il y ait du nouveau tous les jours. On a quand même l'impression que depuis 10-11 mois, on a quand même tous les jours du nouveau, des décisions importantes du gouvernement ou des scénarios importants du gouvernement. Donc, on est capable de renouveler les nouvelles, même si la situation est lourde. Tu sais, on n'est pas différent des autres personnes. On trouve ça lourd. On trouve que les contraintes sont lourdes à porter aussi. On a des enfants qui vont à l'école puis qui subissent l'enseignement à distance. Par ailleurs, on est privilégié parce que nous, moi, dans mon bureau, on a continué à travailler. Il y en a qui sont en télétravail, mais on a continué à travailler. Tu sais, la shop n'a pas été fermée pour nous, même qu'on travaille plus qu'en temps normal, je te dirais, à cause de la pandémie.
Parce que c'est sûr que le télétravail, travail à domicile avec des grands flancs mous dans la maison, je le sais, je le nais, ça complique les affaires. Ça devient, des fois, on veut bien harmoniser tout ça, mais ça devient des fois très, 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 très compliqué.
Ouais, puis tu sais, j'ai une collègue qui est Véronique Prince, là, qui a deux enfants en bas âge. Donc, quand elle travaille à la maison puis qu'elle fait une intervention à la radio, faut qu'elle s'isole pour pas que on entende ses enfants, par exemple, dans son intervention. Mais en même temps, moi, j'ai des collègues, puis moi, je suis le patron de mon bureau, donc je m'occupe de qui est en télétravail puis qui est au bureau. Puis il y en a qui goûtent à ça. Tu passes moins de temps dans le trafic, tu peux aller faire des commissions sur tes heures de travail, évidemment, en étant intègre sur tes heures de travail et tout ça. Tu restes proche de ton monde aussi, plus proche de ton monde. Donc, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Puis c'est comme si on n'avait pas découvert les avantages avant d'être forcé de devoir faire le télétravail. Donc, moi, je serais pas étonné que... je sais pas si Radio-Canada va adopter ça quand la pandémie sera passée, mais je serais pas étonné que des entreprises adoptent du télétravail à temps partiel, tu sais, genre 2-3 jours à la maison, mais 2-3 jours au bureau aussi, pour essayer d'avoir un équilibre entre les deux, parce que on a découvert les bienfaits du télétravail ou certains avantages du télétravail.
Exact. Et ça, c'est sûr qu'il y a... Puis ça, c'est dans un domaine très précis. Puis il y a sûrement d'autres éléments qui vont demeurer après cet épisode de pandémie. Certaines habitudes, par exemple, qui vont s'être ancrées et qu'on aura de la difficulté à se débarrasser s'il faut s'en débarrasser. Maintenant, est-ce que j'essayais de comparer. Je regarde des fois ce qui se passe quand Régis Labeaume est en point de presse. Et mm-hmm. puis, j'ai l'impression que l'opposition venant des médias est quand même très fréquente. J'ai pas cette impression-là. Puis, je t'ai entendu, Sébastien, je pense que c'est la semaine passée, peut-être l'autre avant. Tu as été un des premiers à poser des questions. Et tu es revenu, puis tu étais vraiment... Pas en questionnement, mais sur une vision complètement différente que ce que le gouvernement avait. Est-ce que je me trompe en pensant que cette opposition-là provenant des médias au gouvernement provincial, entre autres, c'est beaucoup moins présent?
Ben c'est, je te dirais qu'il y a deux façons de répondre à la question. D'abord, dans la première vague, là, il y a un an, quand on posait des questions un peu plus serrées au gouvernement, les gens nous tombaient dessus parce que il disait, mais pourquoi vous êtes pourquoi vous voulez confronter le gouvernement? On est dans un effort de guerre, tout le monde va pousser dans la même direction. Votre travail, vous les journalistes, c'est de relayer l'information puis les consignes sanitaires du gouvernement. Puis l'automne dernier, c'est comme si le vent avait un peu tourné puis les gens ont commencé à se poser des questions sur les raisons pour lesquelles le gouvernement prend des décisions. Elle est où la science derrière les décisions? Est-ce que c'est de la science ou est-ce que c'est plus politique? Puis les gens sont devenus un peu plus critiques des décisions du gouvernement, même si une vaste majorité des gens adhèrent à ces décisions. Alors notre rôle rôle, il est double, dans le fond. C'est on relaie l'information importante à la population pour qu'elle prenne les mesures sanitaires qui sont imposées par le gouvernement, mais on est aussi là comme contrepoids démocratique. On parle du quatrième pouvoir quand on parle des médias. Moi, j'aime mieux parler de contrepoids plutôt que contre-pouvoir, parce que on est là pour rendre le gouvernement honnête. Puis j'ai plus l'impression que des fois, j'ai l'impression qu'on pose des questions serrées au gouvernement. Puis c'est notre rôle de poser des questions serrées au gouvernement. Il faut qu'il l'explique, il faut qu'il argumente, il faut qu'il donne les raisons de ses décisions qui sont lourdes de conséquences. Puis, je te dirais que je trouve que la dynamique des points de presse... En fait, peut-être que ton impression vient du fait que beaucoup de points de presse dorénavant se déroulent à Montréal, puis pas à Québec. Okay. À Québec, la meute de journalistes de la colline... Puis je parle pas en mauvais termes de mes collègues de Montréal, mais et plus, elle a une expertise, tu sais, puis elle a peut-être la dent un peu plus longue que la meute de journalistes de Montréal qui baigne moins dans le travail politique, dans le travail parlementaire à longueur de journée. Donc peut-être que cette impression-là, maintenant que j'y réfléchis, vient peut-être du fait que beaucoup des points de presse ont eu lieu à Montréal, puis peut-être que les questions étaient plus des questions utilitaire. Qu'est-ce qu'on doit faire dans telles circonstances? Comment on doit faire les choses? Plutôt que de dire comment vous justifiez vos décisions sur tel ou tel point. Puis la presse parlementaire est plus dans ce registre-là de confronter le gouvernement que peut-être des journalistes qui sont pas des spécialistes de la politique.
Puis vous avez une certaine proximité en les côtoyant presque tous les jours quand ils siègent évidemment à Québec. Fait que cette proximité-là, des fois, ouvre la porte à aller un peu plus loin dans une question serrée, par exemple.
Oui, ben c'est-à-dire que la proximité, c'est un couteau à double tranchant. Tu sais, ça peut faire en sorte que parce qu'on fréquente toujours les mêmes 125 députés sur 4 ans, puis c'est toujours le même staff, aussi les conseillers qui sont là, on crée une proximité où, sans développer des amitiés, disons que le contact devient plus facile avec des gens. Mais ça, c'est dangereux pour un journaliste, parce qu'il faut toujours qu'on garde une certaine distance par rapport à notre sujet pour pouvoir être critique de notre sujet. Donc, on n'est pas là pour faire des passes sur la palette à François Legault là pendant les points de presse. On est là pour... Puis on n'est pas là pour le mettre en échec non plus, mais on est là pour lui donner un petit coup d'épaule pour brasser le pommier, puis lui dire « Hey, ce que tu viens de me dire, est-ce que tu as vraiment réfléchi à ce que tu viens de me dire? Puis c'est basé sur quoi les décisions que tu prends? » Donc, si je fais des analogies de hockey, c'est un peu ça. Pas de passe sur la palette, pas de mise en échec, mais un bon coup d'épaule pour le réveiller. Donc, il faut garder cette distance-là quand même vis-à-vis de notre sujet, dans le fond, parce que le premier ministre, c'est un sujet pour les journalistes. Mais ça permet aussi, en même temps, de bien connaître notre sujet, parce qu'on commence à connaître les mimiques de François Legault. Puis tu sais, juste le body language, là, le langage corporel, on le sait quand il est tanné, on le sait quand il est fatigué, on le sait quand il y a une question qui l'agace, puis on le sait quand il est en contrôle de son message. Donc ça nous permet de nous ajuster par rapport au discours que lui fait.
Je suis moins d'accord avec toi pour la proximité, parce que je regarde chez moi, ma blonde et moi, on est très proches, et elle me critique, elle réussit à me critiquer très 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 bien quand même. Ouais, et
ça, c'est de l'amour, Stéphane, c'est de l'amour.
Ça. C'est ça la différence. Sébastien, as-tu eu l'impression que les partis d'opposition ont très peu de place, puis c'est probablement normal à cause de la crise qui est quand même intense, mais que justement les journalistes t'ont dit, vous êtes le quatrième pouvoir, mais là, dans la situation actuelle, vous avez été pas mal plus deuxième que quatrième.
Oui, ben le gouvernement prend toute la place, puis on le comprend d'une certaine façon, parce que les décisions qu'il prend sont importantes. Puis t'as raison de dire que les oppositions, dans ce contexte-là, cherchent la lumière. C'est-à-dire que le rôle des oppositions, c'est de s'opposer. Moi, je rajouterais de façon constructive. Là, c'est pas s'opposer juste pour s'opposer parce qu'on est dans l'opposition. Faut aussi qu'elles apportent des solutions, des suggestions au gouvernement pour améliorer les choses. Donc, dans le contexte d'une pandémie, puis personne ici a vécu la grippe espagnole de 1918, là, donc on se rappelle pas trop comment ça se passait entre le gouvernement et les oppositions à ce moment-là, mais en 2020-2021, elles cherchent à avoir de la visibilité, puis elles veulent avoir de la visibilité. Donc, il y a des députés dans des partis d'opposition qui réussissent à en avoir. Marois Risky, par exemple, il y en a trois là, qu'on note particulièrement dans le domaine de l'éducation. Là, Marois Risky, Mme Labrie de Québec solidaire, puis Véronique Yvon du Parti québécois. Elle, c'est ce ce qu'on attend des députés de l'opposition. Constructif, incisif, mais constructif aussi, puis capable donc de brasser un peu le pommier du ministre de l'Éducation. Donc, il y en a qui réussissent à avoir de l'attention, mais de façon générale, parce que le gouvernement est omniprésent, parce que le point de presse de 13h ou 17h est suivi comme on suit, tout le monde en parle, par exemple, en termes de code d'écoute, le gouvernement a beaucoup de place, beaucoup de glace, puis est capable donc d'imposer, entre guillemets, son agenda aux partis d'opposition. Puis donc, les partis d'opposition sont toujours à la recherche un peu de lumière et de visibilité, puis ils en ont pas beaucoup par les temps qui courent.
Est-ce qu'il y a vraiment un vent de positivisme qui s'en vient? Tu sais, là, on voit les cas, on voit la courbe légèrement baisser, je comprends, puis qu'ils veulent être à l'écoute, mais en même temps, il y a un épuisement qui m'apparaît de plus en plus généralisé des gens de toutes ces mesures-là. Est-ce que tu as l'impression qu'on s'en va, qu'on le gouvernement va vraiment prendre un virage peut-être un peu plus ouvert, là?
Oui, moi, ce que j'entends, c'est un optimisme prudent. C'est-à-dire qu'on est comme au point de bascule où on peut écraser avec notre pied, dans le fond, la COVID, là, si on maintient les mesures. Alors, l'idée, ce serait de l'écraser. En même temps, c'est pas aussi simple que ça parce que il y a des gens qui souffrent actuellement de la fermeture des commerces, de la fermeture des restaurants, puis l'économie souffre, puis il faut aussi être à l'écoute de ces gens-là qui disent, puis t'as vu le mouvement dans les régions, là, en ce moment, il y a des régions qui disent, on est capable de maîtriser, de contrôler la COVID, pourquoi nous, on rouvrirait pas nos restaurants, nos commerces après le 8 février? Donc, je pense que le gouvernement voudrait rouvrir, mais en même temps, il dit, si on rouvre, est-ce que la COVID va repartir? Puis la nouvelle variable, c'est les nouveaux variants. Donc, à partir de... Si on était face à la vieille COVID, là, il y a un an, probablement que le gouvernement serait prêt à rouvrir. Là, il y a les nouveaux variants qui arrivent, qui se propagent beaucoup plus facilement, qui se transmettent plus facilement. Bon, on pense que le vaccin est efficace contre ces nouveaux variants-là, mais c'est comme un feu qui peut reprendre beaucoup plus vite qu'avec l'ancienne COVID. Alors, moi, je te dirais qu'ils sont optimistes, mais c'est comme si j'ai l'impression qu'ils veulent en faire encore un petit bout avec des mesures contraignantes pour s'assurer d'avoir écrasé la COVID. Parce que ils veulent pas jouer au yo-yo, ils veulent pas rouvrir les commerces pour dans deux semaines plus tard leur dire, ben excusez-nous, on a mal calculé nos affaires puis on doit refermer. S'ils font ça, l'adhésion va diminuer. Les gens vont se dire, mais ils improvisent, ils savent pas ce qu'ils font. Fait que il faut qu'ils jonglent avec tout ça, puis c'est avec ça qu'ils sont en train de jongler, je pense, en ce moment.
OK, Sébastien, dernière chose. J'ai eu l'impression, puis là, il y a un nom qui me manque, là, mais que Pierre Arcan et
Youri Chassaing.
Louis Chassaing, exactement, ont été traités de façon très distincte. A été littéralement tassé, pendant que l'autre a été blanchi. On a parlé de conjoint, mais qui veut immigrer au Canada, puis je me disais, ça doit pas faire 25 ans qu'il est marié avec, là, et qu'il se voit. Je sens que on n'a pas beaucoup exploré ce côté-là. C'est son conjoint depuis combien de temps? Est-ce qu'il se voit souvent? Puis pourquoi on a accepté ça, que lui voyage dans ces conditions-là? Est-ce que tu as senti, toi, qu'il y avait deux façons d'aborder un problème similaire?
Oui, moi, c'est comme si j'ai senti ça, qu'il y avait deux façons de, entre guillemets, mettre en marché le voyage de Youri Chassaing puis le voyage de Pierre Arcan. Pierre Arcan, ça nous a donné l'impression, ben, c'était un peu ça aussi, qu'il est allé à la Barbade, c'était sur le bord de la plage. C'était pas un tout inclus, là. Il était dans un condo, il respectait les mesures sanitaires et ainsi de suite. Il s'est pas vraiment exposé, mais que c'était pour se faire, je caricature, là, mais griller la bedaine sur le bord de la plage, sur le bord de l'océan. Alors que Youri Chassaing, ça a presque été mis en marché comme un voyage humanitaire. Ça fait un an qu'il n'a pas vu son conjoint. Il essaie de faire venir son conjoint qui est péruvien. Il essaie de le faire venir au pays. C'est compliqué. Puis là, il a besoin d'aller au Pérou pour accélérer les procédures d'immigration. Moi, il n'y a personne qui m'a démontré qu'il avait besoin d'aller au Pérou pour accélérer les mesures d'immigration. La démonstration du caractère essentiel de ce voyage-là, elle n'a pas été faite, à part qu'on a eu le premier ministre qui nous a dit « c'est un voyage essentiel ». Donc, moi, je reste sur mon appétit, bien honnêtement, Stéphane, sur le caractère essentiel de Youri Chassaing. En même temps, tu sais, depuis que ça a été mis au jour, je pense que le premier ministre a donné 3 ou 4 points de presse. Puis dans ces points de presse-là, il a parlé de confinement, de couvre-feu. Il a parlé de vaccination. Il y avait comme des sujets plus importants qu'il fallait traiter. Puis c'est comme si on est allé en superficie sur le voyage de Youri Chassaing. Donc, est-ce que il aurait dû être sanctionné comme à peu près tous les autres politiciens, peu importe la raison, qui sont allés en voyage pendant le temps des fêtes? Il y a des gens qui pensent bien que oui. Moi, j'aimerais qu'on me fasse la démonstration que son voyage était absolument essentiel. Puis je te dirais que jusqu'à maintenant, j'ai pas eu cette démonstration.
Ben, j'aime ça. J'adore ta réponse. J'embarque là-dedans avec plaisir. J'espère que au mois d'octobre, tu vas couvrir la campagne municipale de Lévis, l'élection municipale. On aura la chance de se reparler à ce moment-là.
Ben oui, je te souhaite bonne chance. Si j'ai deux conseils à te donner, sois transparent, OK? Puis, dis ce que tu penses, mais pense trop à ce que tu dis aussi. Faut que tu réfléchisses avant de parler en politique parce que ça peut te revenir dans la face.
Je te jure que je vais...
Comme de mettre une tarte dans un micro-ondes, là, avec une assiette en aluminium.
C'était pas fort, ça.
Ah, mais ça, je vais te démontrer mon point.
Ben oui.
Hey, merci, c'est très apprécié. Je te jure que je vais en prendre bonne note de ça. La transparence, ça va, là, je raconte tout, mais de penser à ce que je vais dire, c'est noté, c'est garanti. Merci beaucoup, Sébastien.
Merci pour l'invitation, Stéphane. Et merci. Bonjour à toute l'équipe.
Bye-bye. Sébastien Bovet, chef de bureau de l'Assemblée nationale pour Radio-Canada et également l'animateur mordu de politique sur les ondes de ici Radio-Canada, RDI, bien sûr.
Spécialiste du micro-ondes également.
Oui.
Mais ça, je vais montrer mon point, j'en reviens pas. Puis là, je m'aperçois que